Bonsoir à tous. Il avait pris le pouvoir quand Bourguiba était malade et l'avait quitté renversé par le début du printemps arabe. L'ancien maître de la Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali, est mort. Il avait fui en Arabie Saoudite depuis 2011. Un procès aux allures de duel verbal, celui de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches, après la perquisition mouvementée au siège de la France Insoumise. Nous sommes au tribunal de Bobigny. Au sommaire également ce soir, deux fois plus de victimes du réchauffement climatique d'ici 2050, rapport de la Croix-Rouge, le personnel d'EDF dans la rue contre le projet de restructuration, les journalistes du Monde qui demandent aux actionnaires Pigas et Niel de s'entendre. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien ce soir, puisque le débat sur la PMA démarre mardi prochain à l'Assemblée et que vous entendez tout et son contraire, autant demander les choses à celles qui ont les dossiers en main. Avec vous, Agnès Buzyn pour les questions médicales, Nicole Belloubet pour les questions juridiques. Elles sont là toutes les deux, profitez-en, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Il a été le premier renversé par le printemps arabe en janvier 2011, avant le Libyen Kadhafi et l'Égyptien Moubarak. On a donc appris cet après-midi la mort de l'ancien président tunisien Ben Ali à 83 ans. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Il vivait en exil en Arabie Saoudite depuis sa chute il y a donc 8 ans, mais il a dirigé la Tunisie d'une main de fer pendant 23 ans.
Oui, vous savez, pudiquement on parle d'homme politique tunisien, mais l'histoire retiendra surtout que Ben Ali a été le dictateur qui a régné sur son pays d'une main de faire pendant 23 ans, de 87 à 2011. C'est un militaire de formation qui deviendra vite ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, avant de remplacer, pour des raisons médicales, vous l'avez dit, le président Bourguiba. Ben Ali est un homme fort et habile, qui sait charmer l'Occident. Il laisse par exemple une large place au rôle de la femme en Tunisie. En 93, les femmes sont autorisées à ne plus obéir à leur mari. Il rend aussi la Tunisie attractive économiquement, notamment avec le tourisme, mais ce dynamisme économique signera aussi sa perte, car Ben Ali a un problème, sa femme et sa famille. La famille Trabelsi qui va pomper les richesses du pays. Ben Ali et son clan resteront donc au pouvoir jusqu'en 2011, le 14 janvier exactement, et c'est un simple vendeur de fruits opprimé qui le fera tomber. Mohamed Bouazizi s'immolera par le feu et donnera le signal du printemps arabe. Mais jusqu'à la dernière minute, Ben Ali s'accrochera. Je vous propose d'écouter un extrait de sa dernière intervention publique où il se présente toujours comme le père de la nation.
J'ai passé plus de 50 ans de ma vie au service de la Tunisie, de l'armée nationale aux différents postes de responsabilité et 23 ans à la magistrature suprême. Chaque jour de ma vie a été et demeurera au service du pays. J'ai consenti des sacrifices. Je n'ai jamais accepté un jour et je n'accepterai jamais l'effusion d'une seule goutte de sang des Tunisiens.
Un Ben Ali droit dans ses bottes, mais qui sera obligé de fuir. Il trouvera refuge en Arabie Saoudite et c'est là qu'il s'est éteint en ce 19 septembre 2019.
Merci Nathanaël Charbonnier. L'autre actualité à l'étranger, c'est Israël, où la situation politique se complique un peu plus. Après les législatives d'avant-hier, les résultats donnent le Likoud de Benjamin Netanyahou à 2 sièges derrière le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Le Premier ministre sortant propose un gouvernement d'union à son rival. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Mais Frédéric, Benny Gantz refuse.
Droit dans ses bottes, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, droit dans ses rangers, dans une courte allocution au QG de son parti, Benny Gantz a toujours défendu un gouvernement d'union nationale, y compris avec la droite, mais sans Netanyahou, à cause des affaires financières dans lesquelles il est mis en cause. Alors, sans citer son nom, il repousse l'alliance avec lui.
Le Blanc est le premier parti politique. Les citoyens d'Israël voulaient déjà un gouvernement d'union nationale aux dernières élections et ils le veulent encore. Je souhaite un gouvernement libéral de large union nationale sous ma direction. Nous avons commencé à constituer notre gouvernement. Nous ne céderons à aucun diktat.
En réponse, Benjamin Netanyahou s'est dit surpris et déçu. Il sait qu'il n'aura pas de majorité avec seulement la droite et les religieux. Et s'il veut y parvenir, il devra donc débaucher individuellement des élus d'autres mouvements. Mais Gantz aussi doit renforcer son bloc et avoir un maximum de députés prêts à le recommander. Les députés arabes devenus troisième force du pays, ou bien le nationaliste, ceux du nationaliste Lieberman, à moins qu'ils soient tous ensemble derrière lui, ce qui ressemblerait vraiment à de l'unité nationale, Sébastien.
Et puis décidément, quand ça ne veut pas, voilà Trump qui prend ses distances avec Netanyahou.
Oui, à Los Angeles, hier, Donald Trump était interrogé par des journalistes américains. Avez-vous parlé à Netanyahou ? Il a répondu sèchement, je parle avec Israël. Sans compter que son émissaire pour les processus de paix, Jason Greenblatt, démissionnaire mais toujours en poste, arrive en Israël dans les heures qui viennent. Il doit parler de son futur plan de paix à Netanyahou et à Benny Gantz, comme s'il était acquis à Washington que ce dernier, Gantz, allait occuper de très hautes responsabilités. Le président israélien débutera ses consultations dimanche pour désigner un futur chef de gouvernement.
Et vous nous raconterez tout cela. Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem.
À 19h06 sur France Inter, il voulait enfoncer la porte l'an dernier.
Il criait « La République, c'est moi !» Jean-Luc Mélenchon était plus discret ce matin à son arrivée au tribunal, où il est jugé avec 5 de ses proches pour rébellion, provocation et intimidation d'un magistrat et d'un policier. Le chef de file des Insoumis dénonçait en octobre une énorme opération de police politique à propos de cette perquisition du siège de son parti et de son domicile. On l'a entendu parler de procès politique ces derniers jours. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Il est de nouveau en verve dans la salle d'audience qui prend des allures de tribune.
Et oui, le leader de la France insoumise se comporte d'abord en prévenu modèle. Pendant une demi-heure, il répond aux questions sans encombre, mais très vite, l'animal politique reprend le dessus. Il dénonce le rôle de l'émission Quotidien, auteur des images de la perquisition largement relayées. Un procureur permanent, selon lui. Il assure que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était forcément au courant de cette perquisition. Il explique aussi ses coups de colère. La politique est une violence symbolique à sa manière, dit-il. Tribune pour Jean-Luc Mélenchon, scène non négligeable aussi pour l'avocat de policier, le très médiatique Éric Dupond-Moretti. Très vite, l'audience tourne face à face entre les deux, les piques fusent, le reste de la salle n'existe plus. Le président tente péniblement de ramener le calme. Vous réglerez vos comptes plus tard. Pas mieux quand c'est au tour d'un proche de Jean-Luc Mélenchon de prendre la parole. Bernard Pignerol, autre prévenu, le conseiller d'État dénonce, lui, une perversion de l'état de droit. Chacun y va donc de sa réflexion politique. Les avocats posent des questions dont on ne comprend pas trop à quoi elles doivent mener, ce qui amène des réponses tout aussi décalées. Impression de ne rien apprendre de plus. Et l'on se souvient alors des mots du président à Jean-Luc Mélenchon en début d'audience. « Je ne sais pas quelles questions vous posez. La matérialité des faits que l'on vous reproche est établie par les images. » La France insoumise voulait faire de ce rendez-vous un moment politique. À l'issue de cette première journée, il semble en tout cas qu'il ne restera pas en mémoire comme un grand moment judiciaire.
Le procès continuera demain. Merci Ariane Grissel en direct du tribunal de Bobigny avec Nicolas Mathias. Un essai clinique sauvage interdit par l'agence du médicament. Essai mené sans autorisation par le professeur Joyeux, qui ne fait pas l'unanimité dans la communauté médicale. Il est connu notamment pour ses positions anti-vaccins. Et il teste une molécule inconnue sur au moins 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer, notamment dans une abbaye près de Poitiers. La NSM a saisi la justice.
L'inaction climatique coûte cher.
Oui, on le sait depuis longtemps, mais cette fois, c'est un rapport de la Fédération des Croix-Rouges et Croissant-Rouge qu'il dit, rapport sur le coût humanitaire des crises climatiques dévoilé avant le sommet Action Climat. Rapport qui estime à 200 millions le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d'aide humanitaire chaque année d'ici 2050. Sandy Dauphin.
Tempêtes, inondations, feux de forêt, sécheresse, le nombre de victimes de catastrophes naturelles pourrait presque doubler d'ici 2050, d'après l'estimation de la Croix-Rouge. Car avec le réchauffement climatique, les phénomènes météo extrêmes vont être plus fréquents, intenses et imprévisibles. Un coût humain, mais aussi financier. Aujourd'hui, les interventions humanitaires coûtent entre 3,5 et 12 milliards de dollars par an. D'ici 10 ans, ces besoins de financement pourraient s'envoler pour atteindre les 20 milliards de dollars par an. On ne peut pas empêcher les canicules, les tempêtes et les cyclones, mais on peut en limiter l'impact. Le rapport rappelle l'importance de financer l'adaptation au changement climatique pour construire des bâtiments plus résistants, des digues, des postes de pompage. Le rapport cite aussi l'importance de mettre en place des systèmes d'alerte précoces pour prévenir le plus tôt possible les gens d'un danger imminent comme un cyclone. Message de la Croix-Rouge, si l'on prépare les populations et les zones vulnérables au changement climatique, on pourra faire chuter de manière drastique le nombre de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire.
Et pendant ce temps, à Washington, l'homme le plus riche du monde fait une annonce de circonstance. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, promet que son entreprise remplira ses engagements climatiques de l'accord de Paris avec 10 ans d'avance.
L'avenir n'a pas l'air très dégagé pour Aigle Azur.
Non, les repreneurs de la deuxième compagnie aérienne française ne sont plus que quatre, certains avec des projets peu solides. Et surtout, Air France a décidé de retirer son dossier à cause notamment du passif et de difficultés sociales, sans plus de précision. Elle n'a pas de conséquences dans les foyers, mais un coût pour l'entreprise. La grève chez EDF fait baisser la production jusqu'à 9%. Elle oblige l'électricien à importer du courant. Près d'un tiers des agents ont débrayé contre le projet de restructuration du groupe public baptisé Hercule, qui prévoit une scission des activités commerciales et de production. Des manifestations en région, un rassemblement en début d'après-midi devant le ministère de la Transition écologique à Paris, où se trouvait Hélène, ici au micro de Maxime Deps.
Pour l'usager lambda, aujourd'hui en France, on a la chance de payer le même tarif, quel que soit l'endroit où on habite et quelle que soit la densité de population du lieu où on vit. Demain, dans un système comme ça, qu'est-ce qu'il en sera de l'acheminement de l'électricité dans des secteurs paumés des Alpes ? Ces gens-là devront s'inquiéter, enfin doivent s'inquiéter. Et si on fait le parallèle avec le démantèlement de la SNCF, bon, on voit bien, hein, les petites lignes sont fermées. Donc il y a eu l'an dernier un conflit à la SNCF. Les agents ont défendu leur entreprise intégrée, etc. Bon, ils ont perdu. On voit qu'aujourd'hui, ça devient la catastrophe. Bah, l'électricité, c'est peut-être encore plus important comme sujet. Comment on va construire une politique énergétique qui préserve les enjeux climatiques si on n'a pas un secteur public fort ? Ça me paraît une équation impossible.
Et les syndicats d'EDF étaient ensuite reçus au cabinet d'Elisabeth Borne. Les prévisions pessimistes de l'OCDE, qui s'attend à la plus faible croissance mondiale depuis la crise financière d'il y a 10 ans, elle devrait passer sous la barre des 3% à 2,9% à cause notamment du Brexit, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui devrait, elle, coûter un demi-point de croissance d'après le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La politique avec l'immigration, qui sera peut-être, en tout cas pour l'Élysée, l'un des sujets de la prochaine présidentielle et d'un éventuel nouveau duel Macron-Le Pen. Il y aura un débat dans 10 jours à l'Assemblée et début octobre au Sénat. On parlera du droit d'asile et du panier de soins, de l'AME, l'aide médicale d'État, dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière. 300 000 sans-papiers sont concernés. Agnès Buzyn a obtenu gain de cause. L'AME ne devrait pas être rabotée, contrairement à ce que souhaitait le gouvernement. C'est un recul que regrette l'eurodéputé Rassemblement National Thierry Mariani, joint par Cécilia Arbonin.
Vous savez, quand Emmanuel Macron dit qu'il va changer de politique en matière d'immigration, il y a ceux qui y croient et ceux qui disent que c'est que de la com. Et finalement, on n'attend pas très longtemps pour savoir que c'est que de la com, puisque 2 ou 3 jours après, on apprend que la ministre de la Santé a obtenu que surtout l'AME ne soit pas touchée. Je rappelle quand même que l'AME, c'est quasiment 1 milliard d'euros pour 300 000 clandestins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande par exemple au Rassemblement National ? On demande que tout ça soit réformé, que désormais il y ait des aides uniquement pour les soins d'extrême urgence. Quand on est chef de l'État, on n'a pas besoin d'avoir la sincérité de l'instant. On a besoin d'avoir la sincérité sur le long terme. Je ne sais pas si c'est un parti bourgeois ou un parti de bobo, mais en tout cas, c'est la même politique qui sera continuée, c'est-à-dire dès qu'il y a un bateau qui s'apprête à accoster en Europe, on décide que la France récupérera un certain nombre de sans-papiers. Et vous verrez que quand on fera le bilan de ce septennat, je vous prends le pari, ce sera plus de 2 millions d'entrées, voire 2,5 millions minimum.
La politique encore, mais là, Emmanuel Macron ménage la chèvre et le chou, la bataille de Paris côté majorité. D'un côté, vous le savez, le candidat officiel Benjamin Griveaux, de l'autre, le dissident Cédric Villani. Et donc, au milieu, Karine Bécart, le chef de l'État, qui ne tranche pas.
À quoi joue Emmanuel Macron ? D'un côté, il affiche publiquement son soutien à Benjamin Griveaux, puisque lundi soir, devant les députés de la majorité, le président a rappelé d'abord que les décisions de la CNI, la Commission nationale d'investiture, devaient être respectées, et puis surtout que la division, c'était l'échec assuré. Autrement dit, Cédric Villani allait devoir et rapidement rentrer dans le rang. Petit moment de satisfaction pour Benjamin Griveaux. Hier matin, lors d'une conférence de presse, le chef de l'État lui avait donné raison.
Moi, j'ai pas fait beaucoup de mathématiques, mais une addition, c'est toujours mieux qu'une soustraction si on veut gagner une élection. J'ai proposé à Cédric cet été qu'on copilote ensemble cette campagne. Moi, la porte, elle est ouverte. Mais pour dialoguer, il faut être deux.
Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que d'un autre côté, Emmanuel Macron semble soutenir aussi officieusement Cédric Villani. C'est en tout cas ce que le candidat dissident a révélé ce matin au moment de présenter son équipe de campagne.
Le soir même, je recevais un coup de fil d'un conseiller communication de l'Élysée me faisant passer un message du chef de l'État. Premièrement, qu'il était heureux de m'avoir vu. Et deuxièmement, que les propos qu'il avait énoncé ne s'adressait pas à moi.
Donc Emmanuel Macron encouragerait pour l'instant les deux candidats. Il n'a pas l'intention manifestement de s'enfermer dans un choix, comme si ce président souhaitait que la sélection se fasse naturellement.
Emmanuel Macron qui fait une nouvelle fois la une de l'édition européenne du magazine Time. Il confie que la crise des gilets jaunes a été bonne pour lui, d'une certaine façon, dans cet entretien, parce qu'elle l'a obligé, dit-il, à changer d'attitude face aux Français. C'est donc à lire dans Time. Un avion de combat belge s'écrase dans le Morbihan. Les deux pilotes sont indemnes, mais l'un d'eux est resté accroché un moment à une ligne à haute tension par son parachute. Le F-16 était en vol d'entraînement vers la base de Landby-Wé. C'est la période des vendanges et on manque de bras en Gironde. Le conseil départemental autorise cette année les bénéficiaires du RSA à venir travailler dans les vignes sans perte de revenus. Mais la situation reste tendue pour les viticulteurs, comme ici dans l'appellation Pessac-Léognan où est allée Stéphanie Scock.
Au château Seguin, à Canéjan, on prépare le chai. La première benne de rouge est prévue mardi prochain et pourtant le responsable des lieux, François Machy, n'est pas certain de pouvoir compter sur les 40 vendangeurs dont il a besoin.
On a déjà reçu une cinquantaine de CV qui viennent de tout horizon, local, un peu plus loin. Donc là, c'est très tendu parce que en général, sur 40 candidatures, on en a une sur deux qui est effective. Dans ces cas-là, eh bien, il nous reste deux solutions. Soit on bat encore un rappel au téléphone un peu sur Pôle emploi, et sur la mairie. Et sinon, après, c'est les prestataires qui vont rentrer en ligne de compte, mais à un coût supérieur.
Dans ce contexte, les viticulteurs doivent anticiper leur recrutement. Laurent Cisneros, propriétaire du château de Rouillac et vice-président de l'appellation Pessac-Léognan, travaille sur son planning depuis de nombreux mois. Sa cible, des vendangeurs motivés, quel que soit leur âge d'ailleurs.
Cette année, on a un petit peu plus de retraités, un petit peu moins d'étudiants au regard de la date des vendanges qui se rapproche du mois d'octobre. Donc on voit une évolution, bien évidemment, aussi des profils qui nous rejoignent et c'est à nous de nous mobiliser pour leur proposer des choses intéressantes parce que pour faire un grand vin, il faut un grand raisin et la sélection, elle se fait avec aussi ses saisonniers.
Avis aux amateurs, le travail à la vigne ne manque pas. Actuellement, les agences Pôle emploi de Gironde croulent sous les offres.
Reportage signé Stéphanie Scock, France Bleu Gironde. Peut-être une sortie de crise en vue au journal Le Monde. Mathieu Pigasse a tergiversé, mais le co-actionnaire du quotidien avec Xavier Niel a fini par signer l'accord d'agrément réclamé par le pôle d'indépendance. Sauf qu'il y a ajouté une clause qui n'était pas dans le texte qu'a déjà signé Xavier Niel, qui concerne le rachat des actions de Prisa, autre actionnaire du Monde, j'espère que vous suivez. C'est un bon début pour le pôle d'indépendance, qui attend maintenant que les parties se mettent d'accord. Paul Benkimoun est le président de la Société des rédacteurs du journal, ici au micro d'Alexandra Hakoun.
Il y a un petit côté ping-pong, c'est-à-dire que Mathieu Pigasse a fait un communiqué, Xavier Niel répond par un communiqué. On ne sait pas à l'heure actuelle quelle est la position de Mathieu Pigasse par rapport à la position de Xavier Niel, si elle l'agrée. La seule chose que je puisse dire, c'est que nous souhaitons que les deux actionnaires s'accordent sur le même texte, parce qu'on ne va pas avoir des accords avec des textes différents. Il faut que ça se fasse dans les prochains jours. On ne peut pas rester éternellement à attendre comme ça, de savoir si, oui ou non, cette proposition est acceptable. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a aussi un métier à faire. Il y a surtout une mobilisation telle en interne, une cohésion qui est tellement forte que on se dit, on continue parce que de toute façon, on va pas arrêter en route. Et donc, on attend pour aller jusqu'au bout de cette histoire en espérant que pour tout le monde, elle se termine le mieux possible. Et c'est possible, il y a la place pour ça.
Je termine avec deux infos maison. D'abord, l'événement ce soir sur Inter et bien plus tard que ce soir, la première nuit de la pop culture, 8h d'émission.
Ce soir, cette nuit, si vous voulez dire.
Toute la nuit, 21h-5h. C'est au Grand Contrôle dans le 12e à Paris, mais c'est aussi évidemment sur l'antenne d'Inter, animée par l'ami Antoine Decaune avec Charline Roux. Et puis, on n'oublie pas le deuxième numéro de Poursuite, le podcast d'actualité de France Inter. Cette semaine, c'est consacré à l'Iran et au rôle de médiateur de la France dans la crise avec les États-Unis. C'est en ligne depuis un peu plus d'une heure.
Absolument, c'est bien noté. Merci beaucoup Sébastien Power. Ne bougez pas, ne changez rien. Le 18-20 de France Inter, c'est bien ici et le dit Calac à l'œil sur le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Elodie Calac, donc même temps pour demain.
Oui, toujours beaucoup de soleil, hein, pratiquement partout. Un petit vent de nord-est un petit peu plus discret que les jours précédents. Entre les Pyrénées, le sud des Alpes, la Corse, là on va trouver des passages nuageux. Ils seront sur le pourtour méditerranéen le matin avec quelques averses vers le Languedoc-Roussillon. L'après-midi, on ajoutera quelques averses sur le sud des Alpes, la montagne Corse, un risque d'orage pour les Pyrénées. Le vent d'est à sud-est se mettra en place avec un vent d'automne qui soufflera jusqu'à 80 km à l'heure de l'Aude jusqu'au Midi Toulousain.
Et sinon, il fait un peu plus frais le matin.
Le matin, oui, 2 à 10 degrés sur un grand quart nord-est, mais encore 16 à 19 près de la Méditerranée. L'après-midi, ça repartira à la hausse, 21 degrés à Cherbourg, 22 à Lille, Strasbourg et Brest, 24 degrés à Paris, 27 à Angers, à Lyon, à Toulouse et à Marseille, et 31 pour Bordeaux, pour Biarritz. Alors attention, le temps va se dégrader ce week-end. On a besoin de pluie, mais là, ce sera vraiment des pluies orageuses, parfois intenses, dès samedi sur le Languedoc-Roussillon et sur les Cévennes. Donc soyez prudents.
Allez, une chose après l'autre. Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.